Vous écoutez
RMC. RMC, 9h-10h.
Votre vie numérique.
François Sorel.
Raphaël Grabli.
Il est 9h08, c'est RMC. Le week-end des experts se poursuit après le jardin, après la maison, après la forme et la santé. Christian Ekia place à Raphaël Grabli que j'accueille avec beaucoup de plaisir comme chaque samedi. Salut Raphaël.
Salut François.
Tout va bien?
Bah, magnifique.
Bon, Raphaël qui, vous le savez, est notre expert tech sur RMC. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver et le lire sur BFM Tech. Le site, bien
sûr.
Dans
BFM Tech, un peu dans l'Express aussi.
Un peu dans l'Express aussi, où tu as ton billet. Bref, tu es un peu partout. Et donc le samedi matin, entre 9h et 10h sur RMC. Tout à l'heure, nous recevrons Alexandre Viros, qui est le CEO de e-voyageur SNCF. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que e-voyageur SNCF? Eh bien, ce monsieur est là pour nous expliquer justement.
Oui, voilà. Alors, pour faire simple, hein, c'est le monsieur numérique de la SNCF. C'est-à-dire qu'il va gérer notamment les applications. Alors, à la fois l'application Oui SNCF ou WeGo pour réserver ses billets, mais aussi l'application Assistant SNCF, qui est une véritable application de navigation et qui est d'ailleurs parmi les plus populaires. J'ai regardé tout à l'heure sur l'App Store. Elle est en troisième position. Derrière Google Maps et derrière Waze. Donc c'est quand même pas mal, hein.
Pas mal.
C'est une application qui est très utilisée.
Et notre invité nous expliquera à quoi ça sert en fait.
Et beaucoup de nouveautés aussi d'ailleurs.
Voilà, vous savez que la transformation numérique de la SNCF, c'est un énorme chantier, hein. Et on en parlera tout à l'heure. Bien sûr, vos questions à Raphaël Grabli au 32-16, bien sûr, n'hésitez pas, vous pouvez à tout moment l'appeler. Vous avez envie de changer de smartphone, vous avez envie de changer de PC, vous avez un problème avec un objet connecté, une question sur les réseaux sociaux, sur la sécurité aussi, hein. Vous savez, la vie numérique nous entoure, elle est partout. Donc n'hésitez pas, 32-16. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par l'expert ou par Hervé, mon cher Gilles? Je sais pas, moi. Allez, on y va. Hervé est notre premier auditeur, il a une question pour toi Raphaël. Et on l'accueille tout de suite. Bonjour Hervé.
Allô?
Bienvenue.
Oui, bonjour.
Bienvenue
bonjour,
Hervé sur RMC.
Merci de m'accueillir.
Vous êtes dans le Val-de-Marne, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait. Ouais. J'aurais une petite question. J'aurais souhaité changer mon téléphone, mais j'aurais voulu savoir quelle était l'évolution des téléphones. Je cherche en gros un téléphone PC où je pourrais charger ma société dessus, c'est toutes les données. Et à l'utiliser comme unité centrale où j'aurais juste un écran et un clavier. Et quelle était l'interface? Parce que je sais que Samsung avait travaillé un peu là-dessus. Ou il y avait un peu on pouvait voir aussi bien la version téléphone que la version travaillée en bureautique, quoi. C'est essentiellement ça qui me...
Oui, ils ont développé cette fonction. Alors avant, il y avait un dock qui s'appelait le Dex où il fallait mettre son téléphone. Maintenant, il y a même plus besoin de ce dock. En fait, on peut le connecter directement en fait à un écran. Et puis effectivement, comme vous dites, avec un clavier, on peut l'utiliser comme une sorte d'interface. Alors, on va pas se mentir, hein, c'est l'expérience est quand même moins bonne que sur un ordinateur. Hein. Mais ça dépend de ce qu'on a besoin de faire. Hein. Si c'est pour des choses très simples, ça peut suffire aussi. Hein.
C'est quoi que vous appelez très simple?
Oh bah ça va être envoyer des mails, ça va être aller sur internet,
traitement de texte.
Ouais, parce que maintenant si on utilise le pack Office de Windows, c'est par exemple le Word, c'est l'Excel, ça gère normalement.
Ce sera pas la même application que l'application Windows que vous avez, mais Samsung a notamment développé avec Microsoft en plus, il me semble, hein, ces applications Office spécifiquement adaptées aussi pour leur téléphone. Alors, vous avez quoi actuellement comme appareil?
J'ai un Note 8, donc.
Vous connaissez du coup.
Ouais, je connais, mais est-ce qu'il y a d'autres? C'est d'abord, est-ce qu'ils vont ressortir le suivant, le 10 ou le 12, il y a déjà le 10, mais le suivant. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres marques qui font quelque chose de similaire ou ils sont exclusifs?
Alors, franchement, dans cet état d'esprit, c'est-à-dire d'essayer de travailler avec, d'avoir le pack Office, etc., je pense que la gamme Note de Samsung, c'est ce qu'il y a de mieux. Vraiment, c'est eux qui ont le plus travaillé là-dessus. Honnêtement, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, je pense que vous avez ce qu'il faut. Alors, vous avez le Note
8.
Vous avez le 8, c'est d'accord, qui est déjà très bien.
Mais je vous demanderai une petite faveur. Si vous avez un contact, parce que j'ai voulu changer, prendre le 10, et ils sont pas du tout performants. J'ai laissé des mails et tout. J'ai jamais pu avoir quelqu'un de Samsung qui me rappelle. C'est effarant.
Bah écoutez, si je peux essayer de vous aider, mais
j'ai pas compris. C'est-à-dire que vous vouliez quoi, avoir un contact chez Samsung pour leur dire, vous prenez mon 8, c'est ça.
Voilà, je voulais faire ce que vous aviez conseillé à maman, c'était de prendre une location, parce que j'étais parti dans ce topic-là.
Mais vous n'êtes pas allé sur le site. Vous n'êtes pas allé sur le site de Samsung.
Si, mais j'ai pas réussi.
Vous n'avez pas réussi.
J'ai jamais abouti.
Je regarderai, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que j'aime beaucoup l'offre de Samsung qui est le seul fabricant à faire de la vraie location de smartphone. C'est une offre qui s'appelle Up to You et qui permet de louer son smartphone. Et là, alors vous parliez du Note, donc il y a le Note 10 qui est le dernier en date, mais qui est sorti il y a quasiment un an, puisqu'il est sorti en août, il me semble, ou début septembre. Donc là, évidemment, ils vont sortir le nouveau qui sera le Note 20. Ils ont fait le Galaxy S10, Galaxy S20, donc ils ont fait le Galaxy Note 10, et là ils vont faire le Galaxy Note 20. Alors là je suis sur le site par exemple, c'est 32 euros par mois. Bon, après je pense qu'il vaut mieux prendre l'assurance garantie, enfin contre la casse, etc.
Oui, c'est ça. Mais
c'est vrai que leur format de location, si vous aimez les produits Samsung et que vous êtes vraiment fan et que vous allez continuer chez Samsung, franchement moi c'est ce que je ferais à votre place.
Et puis il faut une capacité, parce que moi je voudrais au moins 500 Go quoi.
Ah oui, non, mais c'est de 256 gigas, les Note 10. Hein.
Mais il y avait une version.
Alors, c'est minimum 256, et le Note 10 Plus, effectivement, vous l'avez en 512.
Voilà, c'est ça.
Ah oui, bien sûr, oui, ça vous l'avez en version avec un stockage très important. 512 gigas, je pense que vous êtes à peu près tranquille. Donc, il y a deux solutions. Moi, ce que je vous recommanderais, si vraiment vous êtes fan de la gamme Note. D'ailleurs, petite question, vous utilisez le stylet?
Oui, c'est merveilleux pour
faire des photos. Dans ce cas-là, vous n'avez aucune raison.
En réunion ou un appel, non, c'est merveilleux.
Parce que sinon, j'allais vous dire peut-être les S20, mais si vous utilisez le stylet et que vous voulez vraiment un grand écran, la gamme Note, grand écran, stylet, enfin, je veux dire, de toute façon, il n'y en a pas deux et ils sont excellents. En plus, ils ont une super batterie, donc vraiment, alors après, évidemment, c'est des produits qui sont très chers, hein, mais si vous avez le Note 8, vous savez, c'est du 1200 euros ou alors 40 euros en location.
Et le prochain, la prochaine version, ça sera août aussi, non, le Note 20?
A priori, oui. En général, il reste sur le même calendrier tous les ans. Ça fait des années que Samsung en fait sort son haut de gamme très grand public, donc en mars. Et puis après, ils sortent la gamme Note, donc avec le stylet, et en général en très grand format au mois d'août. Donc là, on y est presque. Donc à votre place, je m'embarquerai pas forcément là tout de suite dans un nouveau téléphone. Attendez juste le mois d'août, et comme ça, vous aurez le dernier. Ce que je vous recommande, c'est peut-être de revendre le vôtre, sinon, parce que effectivement. Il y a parfois des offres de reprise du téléphone, c'est vrai, qui sont pas forcément toujours très intéressantes, parce qu'en général, quand les marques reprennent les téléphones, c'est pas forcément au meilleur prix. Donc, peut-être essayer simplement de vendre le vôtre à un ami, je sais pas, un particulier, et puis après, prenez-vous le Note 20 ou Note 20 Plus, je sais pas quelle version il y aura, mais ça correspond parfaitement à ce qu'il vous faut. Hein.
Et il y a une possibilité après de, alors je suis un peu le côté de Jensen, c'est enlever mon PC portable et avoir quelque chose qui me projette l'écran sur quelque chose un peu, et puis avec un clavier enroulable, là hop, je suis en déplacement, je sors ça.
Il y a des produits qui existent, je les recommanderais pas. C'est sympa dans les salons, c'est sympa pour faire des petites vidéos pour montrer, mais franchement non, c'est un peu gadget et c'est pas complètement au point comme tu disais, François.
Hervé nous a appelé au 3216. Si, tout comme Hervé, vous voulez joindre Raphaël Grabli et poser votre question high-tech, hein, tout simplement, sur les PC, les smartphones, etc., ce qu'on évoquait tout à l'heure, le 3216, l'appli RMC Direct Studio. Il est temps de retrouver le tuto de Raph maintenant.
RMC, ceci est notre structure, une sorte de programme de chargement.
Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique?
Le tuto de Raph.
Et avant d'attaquer le tuto, je vous rappelle que tout à l'heure, nous recevrons le patron de e-voyageurs SNCF. Si vous avez des questions sur, justement, le numérique et la SNCF, on peut en avoir, hein. N'hésitez pas. Dès maintenant, 3216, l'appli RMC Direct Studio, on sera en plaisir de vous mettre en relation avec notre porte-parole. Ton tuto, Raphaël, on va parler des extensions que l'on peut télécharger, en fait, sur son navigateur, qui sont bien pratiques, mais malgré tout, J'aimerais nous mettre en garde.
Il faut faire très attention parce que ça reste des petits logiciels comme les autres et qui peuvent être risqués comme les autres. Je ne sais pas si tu utilises beaucoup d'extensions.
J'en ai pas mal sur Chrome.
J'en ai pas mal. Hein. Oui,
alors, mais c'est vrai que ça, c'est super pratique. Quand même,
C'est génial. Hein. Alors, pour rappel, c'est un petit programme en fait, qu'on va pouvoir plugger, ajouter à son navigateur et qui va en fait, ajouter des fonctions supplémentaires. Alors, c'est vrai que parmi les plus utilisés, bah, il y a les bloqueurs de publicité, puis il y a aussi des logiciels qui permettent de regarder des vidéos qui sont disponibles dans des pays étrangers, on
Exactement.
Appelle ça des VPN. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même pas mal d'extensions qui sont malveillantes. C'est comme les applications, d'ailleurs c'est des petites applications, et qui vont vous espionner. Par exemple, cette semaine, on apprenait, notamment d'ailleurs chez nos amis de 01net.com, que les chercheurs en sécurité d'une boîte qui s'appelle Awake ont découvert plus d'une centaine d'extensions véreuses qui avaient été téléchargées par des milliers de personnes. Alors ça se présentait comme des espèces de petits outils de... Alors, ça pouvait être des outils de lecture de fichiers PDF et d'autres types d'outils qu'on utilise un petit peu au quotidien. Sauf que le problème, c'est qu'elles récupéraient tout l'historique de la navigation et même les identifiants de connexion. Parce que ces extensions, elles ont accès à notre navigateur. Et notre navigateur, bah, c'est notre fenêtre sur quasiment tout, en fait. Tous nos services, tous les sites sur lesquels on va et où on se connecte. Alors, il y avait d'autres exemples hein, d'extensions peu recommandables. Il y avait, en 2015, il y avait une application entre guillemets star hein, qui s'appelle Ola et qui avait fait un peu scandale. Alors Ola, je pense que c'est assez connu.
Oui.
C'est un VPN qui permet justement, par exemple,
honte parce qu'au début je m'en servais.
Et oui, ça permet notamment, ça permettait parce que je crois que ça fonctionne plus trop, d'aller sur Netflix et d'avoir les catalogues américains, etc. Donc ça permettait de faire croire en fait à un site que vous êtes à l'étranger. Donc par exemple pour accéder à un catalogue local pour un service de streaming et pour faire croire en fait que vous étiez dans un pays en particulier, elle se sert en fait de la connexion des autres utilisateurs qui ont l'extension dans le monde, en fait. C'est-à-dire que c'est pas comme les VPN où les infrastructures ont leur propre serveur. Là, en fait, vous utilisez la connexion d'autres internautes qui sont aussi utilisateurs. Donc, en fait, c'est de l'échange de connexion à travers le monde. Sauf que cette appli, enfin, cette extension, elle est gratuite. Et donc, il fallait bien qu'elle se rémunère. Et le problème, c'est que pour se rémunérer, elle revendait, en fait, une partie
Quand
de la puissance.
Quand c'est gratuit, c'est vous le produit.
Exactement. Tu viens de me piquer ma conclusion. Après, franchement, elle est pas très originale. Alors, je t'en veux pas beaucoup.
Tu pourras la refaire.
Je la referai. Oui. Pour se rémunérer, en fait, elle revendait une partie de la puissance de connexion de ses utilisateurs, notamment à des cybercriminels qui voulaient s'en servir pour faire des attaques informatiques. C'est-à-dire que si toi, François, t'avais installé l'extension, t'avais un type, je sais pas où, moi, en Ukraine ou en Chine ou peut-être en France d'ailleurs, qui allait se servir de ta connexion pour attaquer un site. Donc, je sais pas si t'aurais été très content de ça. Donc, effectivement, de façon générale, il faut faire vraiment très attention en fait aux extensions qu'on installe. Parce que, comme je disais, elle suit votre navigation et votre navigation, c'est quasiment toute votre activité sur le web. Alors, quand on veut installer une extension, le mieux, c'est évidemment de regarder le nombre de commentaires, la note associée, le nombre d'utilisateurs. C'est pas forcément suffisant, puisqu'avec Ola, c'était une application qui était hyper répandue, hyper populaire. Donc, finalement, en fait, il faut avoir le même raisonnement que pour toutes les applis ou produits qui semblent trop beaux, évidemment. Comme tu disais, François, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, c'est-à-dire que c'est plutôt vos données personnelles, le produit et surtout la sécurité de votre ordinateur, votre smartphone qui est en jeu. Donc faites très attention. En fait, faites aussi attention à une extension qu'à n'importe quel logiciel ou que n'importe quelle application.
Oui, en plus, ça s'installe en deux clics, on n'a rien à faire.
C'est très tentant, mais c'est super. Il y a des tas d'extensions qui sont absolument géniales. D'ailleurs, moi, de temps en temps, j'aime bien aller me balader parce qu'il y a des milliers d'extensions. Alors, je crois que la moitié ont moins de 6 installations ou 10 installations. Donc, il y a beaucoup de pertes, entre guillemets. Mais on a vraiment des pépites en extension qui permettent d'ajouter des fonctions. Donc, je passe parfois peut-être pas des heures, mais de longues minutes à regarder un peu ce qui existe. Mais il faut faire attention. Après, évidemment, si l'éditeur, c'est Google et c'est un éditeur qu'on connaît bien, là, il y a aucun problème.
Peut-être que même e-voyageur SNCF a une extension.
Ah bon, on posera la question à notre. On le demandera à Alexandre Diros,
dans un instant.
D'e-voyageur SNCF.
Voilà, qui sera avec nous dans une minute. On va retrouver la météo sur RMC et ensuite donc notre invité sera là, Alexandre Viros, donc le CEO de e-voyageur SNCF. Alors vous dites, mais qu'est-ce que c'est que e-voyageur SNCF? On va tout vous expliquer dans une minute. À tout de suite et merci d'avoir choisi RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre vie numérique.
Où tu vas?
J'ai besoin de vacances.
Les TGV à destination de Marseille-Saint-Charles va partir. Prenez garde à la fermeture des portes. Attention au départ.
Cela comporte beaucoup de bonheur, un espace fiesta, et il est accessible à tous les voyageurs, y compris ceux qui n'ont pas réservé leur place.
François Sorel,
Raphaël Grabli,
nous vous souhaitons un agréable voyage et de belles vacances.
Bon, on y est, hein. On a l'impression.
Tu sais ce que c'est qu'on écoute, François ?
Non.
La petite musique de la SNCF version rock. C'est le guitariste des Pink Floyd.
Exactement, qui a remixé.
C'est David Gilmour.
Ouais, c'est dingue, hein, quand même.
Il était dans une gare, il a entendu ça, il s'est inspiré la suite de notes, et il a fait une chanson qui est franchement pas mal du tout.
Franchement, vraiment Pink bien. Floyd qui s'intéresse à la SNCF, ça fait rêver quand même, hein, c'est bien. Il est 9h27, c'est RMC, le week-end des experts, la vie numérique, et Raphaël Grabli, nous allons découvrir e-voyageur SNCF ce matin avec notre invité Alexandre Viros. Vous êtes le CEO, donc le patron de e-voyageur SNCF. Bonjour. Merci d'être là avec nous en studio.
Bonjour Alexandre Viros. Alors, Déjà, on peut peut-être demander un peu de présenter ce que c'est que e-voyageur SNCF, qui est un peu une entreprise dans l'entreprise.
Oui, avec plaisir. Et puis merci de m'accueillir. Merci d'avoir appelé aussi David Gilmour, parce qu'il a été inspiré par ce qu'il a entendu dans une gare. Donc c'est un moment, c'est un élément de fierté pour nous tous. Alors e-voyageur SNCF, c'est l'ensemble du digital, ce qu'on appelle le digital client de la SNCF. Donc dans la poche des gens, c'est l'application Oui SNCF. Ça, c'est celle qui vous permet de réserver vos billets essentiellement en TGV, intercité. Puis depuis quelques années sur le TER, puis il y a une autre application dont on va parler aussi, qui est l'assistant SNCF. Elle est téléchargée par 16 millions de personnes. C'est plutôt une application qui donnait de l'information au début, et puis on l'a focalisée dans l'histoire sur la vente de billets plutôt pour les trajets du quotidien. Donc par exemple, on peut avoir ses billets de Transilien, RATP ou RER quand on est à Paris-Île-de-France, mais également en TER. Et puis on a un troisième site qui est moins connu des Français, il s'appelle Rail Europe, et lui il vend des billets de train européens ou non européens, parce que c'est pas évident, c'est pas le cas dans tous les pays qu'on prend le train, mais l'Europe, elle se distingue par le fait qu'on y prend beaucoup le train. Et puis pour faire tout ça, on a ce qu'on appelle une usine digitale, c'est une DSI qui produit l'ensemble de ces objets. Donc voilà ce que c'est qu'une voyageur SNCF.
Donc toutes vos équipes pour le numérique sont regroupées, entre guillemets, vous les dirigez, et puis donc il y a ces applications, l'assistant, ça on va en parler tout de suite parce que c'est vraiment pour le quotidien, et puis Oui SNCF pour les voyages professionnels ou personnels, mais sur les réseaux de la France entière. Alors oui, on peut parler de l'application Assistant SNCF, déjà, comme je le disais tout à l'heure, elle est assez populaire, cette application. Vous disiez 16 millions d'utilisateurs sur l'App Store, notamment le magasin d'applications d'Apple, mais il faut sur Google aussi. Elle est très bien placée. Elle est numéro 3 dans la catégorie navigation derrière Google Maps et Waze. Donc c'est quand même une belle perf. Alors par contre, il n'y a pas de cartographie, hein. C'est pas une application de GPS, mais c'est une application qui va permettre de trouver un itinéraire en mélangeant tous les moyens de transport.
Alors expliquez-nous comment ça marche.
Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire, vous voulez aller d'un point A à un point B, vous voulez aller de chez vous à l'école, de chez vous à chez le médecin ou de chez vous à chez un ami. Cette application, elle va vous dire voilà comment on fait. Donc ça, vous le trouvez sur certaines applications de cartographie.
Oui. CityMapper le fait très bien.
Ça, c'est une première chose. Et là, la différence que nous, on a avec CityMapper, c'est qu'on le fait sur toute la France. On le fait sur, pour être honnête, on le fait sur 80% du territoire. CityMapper, c'est dans les grandes villes. Oui. Quelques grandes villes. Nous, on dit, on sert l'ensemble des Français. Ça, on le fait. Ensuite, elle vous donne cet itinéraire, le meilleur itinéraire.
Excusez-moi, pour comprendre un exemple, je suis à Paris, ici même, à RMC. Je veux aller à Marseille, par exemple, dans le 12e arrondissement. Je vais rentrer les adresses et vous allez me saucissonner toutes mes étapes de voyage pour arriver à bon port jusqu'à Marseille.
Pour le moment, ce qu'on va faire, prenons un exemple plutôt trajet du quotidien.
Trajet quotidien, pas plutôt trajet vacances.
Plutôt, mais qui va piano va sano. On commence par le quotidien et ensuite on va
pas trop piano. Avec le TGV.
J'entends la malice dans votre question. Vous voulez aller de RMC à au CNIT à la Défense. Là, on va vous proposer, on va dire en RER, voilà comment vous pouvez faire. En RER plus métro, vous pouvez faire comme ça. Mais vous pouvez aussi prendre du vélo, faire un bout en vélo, puis un bout en métro. Vous pouvez prendre un VTC, vous pouvez prendre un taxi, vous pourrez prendre un vélo. Donc on va vous proposer plusieurs modes de transport. Là où nous, on veut se distinguer, moi ce que j'ai voulu qu'on fasse avec cette application, c'est dire, ok, tout ça c'est très bien, mais dans les autres applications, ce qui se passe, c'est on vous donne l'itinéraire et ensuite vous devez sortir pour aller sur une autre application. Nous, on appelle ça le clic sortant. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces cas-là? On voit qu'en fait, les clients, beaucoup d'entre eux, ils abandonnent. C'est un peu embêtant parce qu'il faut s'être fait un compte ailleurs, faut avoir eu un compte chez SNCF, dans un taxi, etc. Donc, la clé pour nous, c'est d'avoir tout dans un seul et même compte et que le client puisse réserver.
On reste faire... dans l'univers.
Exactement.
Dans
il faut qu'il puisse réserver et faire son paiement dans une seule et même donc, application. Et ça, c'est la différence.
Donc,
ça,
c'est pas
la
vous différence. Qui renvoyez vers des services, c'est vous négociez avec les services pour qu'ils intègrent directement l'application.
Ouais.
Et alors là, vous avez fait quand même quelque chose cette semaine d'assez original. Vous êtes allié avec Uber. Alors, l'alliance de SNCF et Uber, c'est vrai qu'on s'y attendait pas forcément. Et donc, justement, Uber, maintenant, on peut réserver un Uber directement dans l'assistant SNCF.
Ouais, absolument. Ça, c'est un grand cap qu'on a franchi. C'est un effort qui a été fait par Uber pour une seule société dans un seul pays. Qui dire ok ben
c'est
nous,
un partenariat
nous,
unique au
nous,
monde
c'est unique pour au le monde. Moment il est unique au monde et à eux de voir ce qu'ils en font après mais ouais. Nous on a dit voilà nous on a une approche SNCF on a une certaine on a une approche des mobilités on a nos clients ils ont un compte SNCF Connect et on pense que c'est bien de pouvoir leur proposer aussi de prendre des Uber parce que comme on dit souvent les gens ils habitent pas dans des gares ils vont pas travailler dans des gares il y a un avant il y a un après on fait ce qu'on appelle du porte à porte Uber ça fait partie des bonnes solutions de mobilité qui existent dans le paysage et on leur a dit nous on veut bien travailler avec vous mais à une condition c'est que le client il puisse finaliser son achat, son paiement chez nous pour que ce soit simple pour lui et pour qu'il garde le contact avec nous. Et donc, ils ont accepté de faire des développements informatiques. Vous savez ça très bien, c'est souvent très compliqué de faire simple dans nos métiers. C'est-à-dire, arriver à un niveau de simplicité très élevé, ça demande énormément de technologie puisqu'il n'y a pas de standard en fait, qui existe. Eux, ils ont accepté de faire ces efforts-là pour nous. Donc ça, c'est une première et c'est un vrai cap qui a été franchi.
Oui. Mais pour comprendre, parce que finalement, l'appli Uber fait ça. Je suis à RMC, je vais au CNIT, je lance l'appli Uber, je dis que je vais au CNIT et c'est réglé. Là, vous, ça sera une option en fait, Uber, parmi d'autres qui sont les transports en commun.
C'est une option parmi d'autres options.
Qui seront peut-être quoi ? Des trottinettes, des vélos ?
Déjà, ça peut être... vous voulez prendre le RER, vous avez...
Un trottinette pour aller au CNIT, ça fait
vous
un peu...
Non, mais vous pourriez faire un bout de trottinette et ensuite prendre le RER. Et donc ça, vous pourriez les réserver via nous. À un moment donné, vous dites, tiens, il pleut, je veux plutôt prendre un taxi. Vous pouvez prendre un taxi. Vous pouvez prendre un Uber. Donc on est venu proposer plus d'offres que nous n'en avions jusqu'ici. Et encore une fois, le client, il finit chez nous. Donc c'est ça qui est génial. C'est qu'il n'a pas besoin de se construire un nouveau compte.
Donc on n'a pas besoin de se créer un compte Uber.
On n'a pas besoin de se créer un compte Uber.
D'accord. Mais on vous paye à vous.
Vous payez tout à la SNCF, exactement.
Et la SNCF reverse ensuite.
Après, nous, on a un contrat de redistribution avec Uber, mais le prix, par exemple, pour le client final, c'est le même.
Il n'y a
pas de surtaxe.
Alors, Uber comme partenaire, vous en avez d'autres ?
Nous, ce qu'on voudrait, là, on raisonne plutôt en termes de c'est quoi les bonnes mobilités pour nos clients pour demain ?
Oui.
Le vélo, c'est un candidat évident, surtout avec tout ce qui se passe et tout ce qu'on dit. Les trottinettes, on voudrait élargir aussi notre offre de taxis. Bon, je rappelle, on est présent dans près de 200 villes avec des taxis. On a un partenaire qui nous permet d'agréger des taxis indépendants locaux. Hein. On en a dans toutes les villes. Donc, on voudrait élargir ces offres-là.
Il manque encore, par exemple, à Paris, G7.
Oui, vous me faisiez la remarque. Ouais. Moi, ce que j'ai toujours dit, ce que j'ai toujours vu notre objet comme ça.
Les G7, souvent, les cartes bancaires sont en panne. Les G7.
Nous, on est une maison ouverte. Donc, on sera ravis d'accueillir G7 comme on accueille les autres taxis.
Oui, G7, parce que eux, ils ont développé une appli. Alors, on se disait en antenne, c'est vrai qu'il y a un modèle, je trouve, de marque qui a su se réinventer. Alors, c'est vrai que vous faites franchement des choses intéressantes. Autre marque qui a su se réinventer, c'est G7. Ils étaient complètement à la traîne quand les VTC sont arrivés. Et là, ils ont fait une appli depuis des années.
Cela dit, ils n'avaient pas trop le choix. Hein. Quand vous avez Uber qui est en train de casser tout votre système.
Ah oui, oui, mais c'est pas évident d'y arriver aussi bien et aussi vite. Et franchement, je salue vraiment ces G7, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment incroyable. Et donc, c'est vrai que ce serait sympa de pouvoir l'avoir aussi directement au sein de l'application. Et alors pour les autres, les vélos, est-ce que je peux louer hein, alors Vélib à Paris, même s'il n'y en a jamais, ou dans les autres villes, est-ce qu'on peut louer des vélos?
Il y a certaines villes où on peut louer des vélos. À Paris, on est encore en train de discuter avec Vélib, comme pour les trottinettes d'ailleurs. Nous, on attendait que ça se stabilise à Paris pour savoir en fait quel est le candidat des trottinettes qui va gagner. Non, mais dès que ça le sera, nous, encore une fois, on est prêt à commencer à travailler avec les différents opérateurs de trottinettes. Juste pour que vous compreniez bien, que les gens comprennent, c'est pourquoi c'est long techniquement à faire. C'est en fait on branche ce qu'on appelle des interfaces de programmation. Je ne veux pas faire technique, mais brancher un système comme Uber à un système comme le nôtre, il faut qu'il y ait des standards. Ce n'est pas juste prise mâle, prise femelle, ouais. Ou ce n'est pas juste des briques de Lego. Il faut imaginer un monde où en fait...
C'est une greffe, quoi.
C'est une greffe. Il faut imaginer un monde où tous les briques de Lego en fait, seraient sur des formats différents. Mmh. Bah, le travail que nous, on fait dans ce monde-là, c'est de les rendre, de les standardiser, de les rendre compatibles,
oui,
les unes avec les autres.
Les systèmes d'Uber puissent communiquer avec le système de la SNCF.
Et c'est pour ça qu'ils y ont beaucoup travaillé, c'est pour ça qu'on a été exigeant avec eux. Ouais.
Alors ça, c'est l'un des chantiers, en fait, dit voyageurs SNCF. Quels sont les autres, par exemple, que vous avez?
Oui, juste sur ce chantier-là, mais ce chantier-là, pourquoi il est particulièrement important? Parce qu'on pense que il faut qu'il y ait une espèce de coalition des différentes mobilités pour que les gens abandonnent la voiture qui conduisent tout seul. Donc ça, c'est vraiment un chantier fondamental.
Juste très rapidement aussi, pour abandonner la voiture, il faut donc avant tout les transports en commun. Dans le quotidien, on reste dans le volet assistant SNCF. On peut acheter nos billets parce que oui. On peut prendre un taxi, mais ce serait bien qu'on puisse acheter notre billet de train, notre billet de bus.
On peut acheter son billet de bus. On peut acheter, comme je l'ai dit, son billet de TER ou son billet RATP ou son billet transilien sur Android. Mais ça, c'est plutôt la question des téléphones avec lesquels on travaille. Nous, on est prêt pour iOS.
Il n'y a pas de ticket dématérialisé encore sur iPhone.
Il n'y en a pas encore. Mais ça, c'est un sujet Apple qui concerne tout le monde, qui ne nous est pas spécifique.
C'est un sujet Apple qui traîne un peu quand même, oui. Aussi, hein, accessoirement.
Et donc ça, c'est tout ce qui est région parisienne, mais partout en France, vous êtes plugué, rattaché à des systèmes de transport.
On a l'ensemble des régions TER, à l'exception d'une, mais avec qui on est en discussion. On a les taxis sur l'ensemble de la France, on a des bus sur l'ensemble de la France. On couvre 500 villes aujourd'hui, donc c'est vraiment une application de mobilité d'ampleur nationale. Donc ça, c'est vraiment notre grosse conviction, c'est ma conviction, c'est qu'il faut qu'on se distingue des autres par le caractère national. Mais vous disiez tout à l'heure, en fait, l'ensemble des Français, ils ont avancé quand ils ont vu ces géants américains arriver avec des nouvelles solutions. On a continué une sorte de combat pour un certain modèle de mobilité, c'est ce qu'on fait aujourd'hui.
Oui, mais finalement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voyait les Américains en disant « ils vont tout détruire ». Puis finalement, c'est complémentaire puisque vous nouez tous des accords avec eux. Donc en fait, on s'aperçoit que les uns peuvent très bien cohabiter avec les autres. Uber peut cohabiter avec les taxis, avec G7, on en parlait, et avec la SNCF quelque part. Finalement, c'est une offre en plus.
Moi, ma conviction, c'est que en fait, quand on voit qu'il y a beaucoup de gens qui continuent d'utiliser la voiture seule, en fait, c'est là le marché qui est à prendre. C'est-à-dire que si, à un moment donné, on crée des accords entre nous tous et qu'on voit qu'on est complémentaires, qu'on crée des usages, qu'on crée de l'habitude avec des gens qui disent tiens, c'est intéressant de faire du transport public ou du taxi ou autre chose, eh ben là, on a un marché qui va grossir naturellement avec ces usages. Donc ça, ce sont nos gros chantiers. Ouais.
Alexandre, vous restez avec nous. On a bien compris le fonctionnement de cette application et je suis persuadé qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de la télécharger pour pouvoir la tester. On va évoquer un autre volet, c'est les vacances. Qui arrive, hein, vous êtes au cœur du réacteur justement de ce qui va se passer, des centrales de réservation. Quelles sont les tendances? Est-ce que vous avez peut-être déjà des premières tendances qui remontent? Voilà, on reçoit, je le disais ce matin, Alexandre Viros qui est le CEO de e-voyageurs SNCF. Vos questions avec Raphaël Grabli au 3216 ou sur l'appli RMC Direct Studio. On revient dans une minute, à tout de suite.
RMC jusqu'à 10h,
votre vie numérique.
RMC jusqu'à 10h,
votre vie numérique.
François Sorel,
Raphaël Grabli.
10h moins le quart, bientôt les vacances. Écoutez, c'est l'été aujourd'hui, donc ça y est, hein, même si on travaille. J'espère que quelques-uns d'entre vous et la plupart d'entre vous, la majorité d'entre vous pourront partir en vacances, peut-être. Prendrez-vous le train? Parce que c'est vrai que c'est sans doute en cette période le moyen de locomotion le plus agréable et le plus facile, hein, même si l'avion va reprendre, mais ça va être peut-être un petit peu plus long.
Comme on va tous partir, enfin tous, une grosse partie partir en France cette année, ouais. Donc évidemment le train va être particulièrement utilisé encore plus que d'habitude, je pense.
Exactement, et donc avec notre invité Alexandre Viros, on va faire un petit peu le point sur les réservations, comment ça se passe, est-ce que les Français vont partir en vacances cet été, plus que d'habitude, et est-ce qu'ils vont prendre le train?
Je pense qu'ils vont repartir en vacances et je les encourage à prendre le train, évidemment. Vous disiez c'est plus agréable, c'est aussi plus écolo, plus favorable à l'environnement, donc il y a plein de raisons de prendre le train. Bon, on sort d'une période qui est évidemment complètement horrible, hein, puisque plus personne ne bougeait, il faut réhabituer les gens au fait de partir. Ceci étant, nous, on a des signaux très positifs sur ce week-end, par exemple, tout simplement. Ce week-end, hier, il y avait 50 TGV qui étaient déjà pleins. Ce dimanche, il y en aura 60 sur à peu près 300.
Donc tout se réveille gentiment.
C'est un indicateur important. Oui, ça se réveille gentiment. On commence à revenir sur le mois de juin, bon, qui est pas fini, à des niveaux qui ressemblent à quelque chose. On n'est pas à ce qu'on était avant, mais ça commence à rejoindre ce niveau-là.
Et puis là, vous parlez des TGV actuels, mais vous voyez les TGV de demain, de cet été, puisque vous êtes, entre guillemets, je rappelle, hein, monsieur numérique de la SNCF, hein, pour résumer, et donc vous gérez les applis de réservation. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vrai, comme il y a plus de boutiques SNCF, ça n'existe plus. Il y en a peut-être, enfin, il y en a dans les gares, mais donc du coup, c'est vous qui vendez les billets. Aujourd'hui, vous vendez quasiment tous les billets en France sur les applications ou SNCF ou Ouigo.
Nous, on vend la grande, évidemment, l'immense majorité des billets. Et donc, ce que l'on voit, c'est que juin repart, juillet, pas encore beaucoup, août, les gens attendent.
Ah oui, il y a quand même.
C'est normal, il y a une forme d'attentisme, et encore une fois, plaçons-nous dans le contexte. Toutefois.
Mais pourquoi? Pourquoi, à votre avis, les gens ne réservent pas pour juillet, pour août? C'est des problèmes économiques? C'est parce que, ils ont peur de d'être en, je sais pas, confinés dans un train?
On peut annuler, en plus.
Il y a deux phénomènes. C'est-à-dire qu'il y a une forme, il y a eu une forme d'attentisme. On passe trois mois confinés chez soi, sortir devient un peu moins évident. Donc ça fait partie des choses. Après, nous, on a tout fait pour que ce soit facile pour eux, hein, pour vraiment donner de l'envie de voyage et aller plus loin. On peut annuler ou échanger sans aucun problème jusqu'à la fin du mois d'août.
Alors attendez, c'est important qu'on fasse le point. J'achète un billet aujourd'hui, n'importe quel prix du billet.
Vous pouvez l'annuler.
Même si c'est des billets pas chers qui, en théorie, sont difficilement annulables ou pas annulables.
Si vous avez changé d'avis, vous pouvez annuler et
donc
changer.
Donc tous les billets vendus
sont annulables
et échangeables
depuis quelques semaines. Ça, on a voulu faire ça parce qu'on a voulu que les gens puissent réserver sans aucune inquiétude.
Y compris sur l'application Ouigo.
Y compris sur l'application Ouigo.
C'est-à-dire les billets vraiment à bas prix.
Absolument. Et ça. Après, vous parlez du. Donc, ça, c'est un premier point.
Ils sont annulables, excusez-moi. C'est remboursable aussi, ou est-ce que je peux simplement avoir un bon d'achat?
Vous pouvez avoir un bon d'achat, et dans un certain nombre de cas, vous serez également remboursé. Mais tout a été fait pour que ce soit vraiment beaucoup plus facile
flexible
pour nos clients.
D'accord.
Ça, c'est un premier point. Vous parlez aussi de petits prix. On a choisi, parce qu'on voyait ça, moi je voyais ça sur les sites internet, on s'est dit qu'il faut réinjecter un peu de générosité, ou plus de générosité prix, comme on le dit, pour nos clients. Donc on a, sur les TGV, la longue distance, 3 millions de billets à moins de 49 euros. Il y en a déjà 1 million qui sont partis. C'est deux fois plus que ce qu'on faisait l'année dernière. Donc c'est un geste fort en faveur du pouvoir d'achat des Français pour qu'ils puissent prendre le train. Ça, c'est important. On a lancé, avec TER et les régions de France, une grande opération qui s'appelle TER de France, Terre de France, avec 2 millions de billets à moins de 10 euros. Donc ça aussi, ça fait partie des éléments de générosité, et c'est important aussi pour nous qu'on soit au rendez-vous.
Il y a même des promos sur des destinations qui sont très prisées, par exemple un Paris-Marseille. Moi, je descends de temps en temps en train, et c'est pas donné, quoi. Je veux dire, enfin, on a l'impression que il y a peut-être des promos sur certaines lignes, mais pas sur toutes les lignes.
Aujourd'hui, il y a deux fois plus, comme je vous le disais, de petits prix qui sont mis sur le marché. Donc tout ça doit créer du rendez-vous. Il y a un autre point dont on n'a pas parlé, mais c'est important parce qu'on voit bien la sensibilité des gens. C'est aussi le discours, je dirais, de réassurance, le discours sanitaire. Évidemment, on a dit aux gens pendant trois mois, attention, il y a cette maladie terrible, il faut se protéger. Nous, on a un protocole sanitaire qui est très exigeant. On demande à nos clients de porter le masque. L'ensemble de nos équipes portent un masque. Les trains sont régulièrement désinfectés. On a une charte SNCF tous responsables. Donc, on a mis ensemble un certain nombre de dispositifs pour vraiment rassurer les gens.
On est en sécurité quand on voyage en train, c'est ça ?
On est en sécurité quand on prend le train.
Et le numérique,
cela dit, en avion aussi. Enfin,
en avion,
je suis pas là pour faire le.
Non, en avion.
On est obligé de prendre
un
masque.
Non, mais tout le monde prend les bonnes mesures. Je pense que ce soit Air France ou soit la SNCF, ils prennent en général les bonnes mesures. Mais est-ce que le numérique a un rôle supplémentaire à jouer par rapport à ça? Je pense notamment au sans contact, au NFC, c'est-à-dire réserver son billet, arriver, ne toucher à rien. C'est ça le but peut-être.
Ouais, Raphaël, merci beaucoup de le rappeler parce que cette technologie NFC. Ça, c'est comme parfois vous allez dans des commerces, vous n'avez même pas besoin de scanner un produit, la machine le reconnaît automatiquement et le met sur le bon de caisse. Bon, ça, ça ressemble un peu à ça, la technologie NFC, c'est-à-dire vous passez avec un téléphone, même éteint, il vous reconnaît.
C'est la technologie utilisée pour le paiement sans contact.
Exactement. Et donc ça.
C'est pas le QR code.
Ce n'est pas un QR code, vous êtes obligé.
Ce qui est actif aujourd'hui.
Non, parce que maintenant, vous avez sur TER et Transilien, vous avez cette technologie NFC sur Android seulement, on l'a dit tout à l'heure.
Non, mais sur TGV, on a le QR code. QR code.
Sur le TGV, vous avez le QR code.
D'accord.
Mais aujourd'hui, puisque le monde a changé et qu'on voit qu'il y a une attente forte d'avoir du sans contact, on ira peut-être dans cette direction-là. Donc ça, ça fait partie des choses que l'on regarde. Il y a un autre point, c'est pas pour faire dire du mal d'autres modes de transport, mais on voit bien que dans l'époque, et puis il s'est passé cette semaine, on a beaucoup parlé d'environnement. Moi, j'insiste là-dessus, c'est le train fait partie, c'est le mode de transport le plus compatible avec nos enjeux environnementaux. Il y a un chiffre qui m'amuse parce que je veux juste le partager avec vous. On a vendu pour l'équivalent en billets de train de 821 millions de kilomètres pour cet été jusqu'ici. Ça, si les gens l'avaient fait en voiture, ça aurait généré 156 000 tonnes de CO2 en plus. Ce que je veux dire, c'est que à chaque fois que quelqu'un prend un train plutôt que la voiture, c'est du CO2 en moins dans l'air.
Qu'est-ce qui se dessine, Alexandre ? Des courts trajets pour cet été, pour les vacances, ou des longs trajets ?
Alors, on a plus de longs trajets qu'avant, premièrement. Beaucoup plus de trajets à plus de 700 km, à peu près 10 points dans ce qu'on appelle notre mix. On a plus de franciliens que les autres années. Je crois que les franciliens se sont sentis évidemment surconfinés.
Ils ont envie de bouger.
Ils ont besoin de bouger. On a également des destinations qui sont choisies. Ce sont les littoraux et les montagnes. Les gens ont besoin d'air. On voit qu'ils vont à la mer, ils vont à la montagne. Donc c'est ça qu'on voit. Ce qu'on voit moins, c'est les city breaks, quoi, comme on les appelait. C'est-à-dire le week-end dans une ville. Ça, je crois que les gens n'en veulent pas.
Ils veulent pas rester en ville. Ils veulent de l'air, quoi.
Enfin, ils veulent de
les
l'air.
Les gens veulent respirer.
Les gens veulent respirer. Et donc là aussi, on va accompagner tout ça. On travaille d'ailleurs avec nos partenaires du tourisme. On va faire beaucoup de choses, je pense, dans les prochaines semaines, simplement autour de la restauration, pour rappeler combien c'est agréable et sympa de découvrir ou de redécouvrir une France gastronomique. Donc on a beaucoup d'opérations qu'on va faire autour de ça.
Est-ce que vous voyez une augmentation des téléchargements des applications, alors je pense à SNCF et Ouigo, de réservation? Est-ce que ça...
On a, nous, notre parc, comme on l'appelle, d'applications, il n'arrête pas d'augmenter. On est maintenant à 23 millions, on gagne des millions.
Mais là, est-ce qu'il y a un petit boost depuis le déconfinement?
Il y a un petit boost, et puis après chaque annonce du gouvernement, on a vu boost du trafic et boost des téléchargements.
Alexandre Viros, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions et téléchargez donc cette application. Rappelons l'intitulé de l'appli, s'il vous plaît.
C'est l'assistant SNCF.
Assistant SNCF à la fois sur iOS et Android. Et puis Raphaël, on se retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir, François.
Bien évidemment.